Quand je vous vois, cher confirmant, je pense au témoignage que vous nous avez partagé lors de notre rencontre à Belloc, il y a quelques semaines. Je pense surtout à vos lettres, dans lesquelles vous avez exprimé l'histoire que Dieu fait avec vous. Une histoire d'amour qui, sans doute, comme vous le confessez vous-même souvent, était improbable. Quand j'ai entendu ce matin le beau témoignage de Cyril et Virginie, je me suis dit aussi qu'il y a des histoires que rien ne prédispose à la rencontre fulgurante avec le Christ dans la puissance de son Esprit-Saint. Et je me dis, en lisant, méditant vos témoignages, en écoutant tant d'autres témoignages à travers mon ministère d'évêque, je pense à tous ces jeunes qui me demandent la confirmation chaque année et qui savent parfois dans leurs lettres exprimer des perles, des perles. Un enfant dont personne ne soupçonnerait la vie de prière, qui dit secrètement dans une lettre adressée à son évêque: Jésus est comme un confident et comme un ami pour moi qui ne me quitte jamais. Quand j'entends ces témoignages, dont je suis témoin admiratif, de contempler l'œuvre de l'Esprit-Saint dans les cœurs et dans les âmes, je me redis que l'Église naît d'en haut. Elle ne naît pas d'en bas, comme si elle était une simple structure qui s'organise à partir d'idées trop humaines, de plans et de programmes dont nous avons tous le secret, n'est-ce pas? Surtout nous, les clercs dans l'Église, les clercs qui reconstruisons sans cesse l'Église à la couleur de nos idées, de nos sensibilités, de nos opinions. Non! Je suppose que si vous avez frappé à la porte de l'Église pour demander le sacrement de confirmation qui, comme vous le dites, vous fera appartenir plus pleinement à l'Église du Christ, ça n'est pas parce que notre service de marketing est meilleur que d'autres entreprises, sociétés ou associations humaines. L'Église naît d'en haut. C'est la promesse de Jésus qui s'accomplit, adressée à ses apôtres au jour de l'ascension. Vous recevrez une force venue d'en haut. L'Esprit-Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense à cette vision de Saint Jean dans l'Apocalypse, qui voyait la cité sainte, la Jérusalem céleste, et cette vision nous fait comprendre quelque chose du mystère de l'Église qui s'accomplit aujourd'hui, parce que nous sommes rassemblés au nom de Jésus qui est vivant au milieu de nous. Il voyait la cité sainte, la Jérusalem céleste, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Elle s'était faite belle comme une fiancée pour son époux. Et j'entendis, dit Saint Jean, une voix éclatante qui disait: voici la demeure de Dieu parmi les hommes. L'Église naît et renaît sans cesse de cette force venue d'en haut, de l'Esprit-Saint qui est l'âme de l'Église, que Jésus nous a promis de nous envoyer d'auprès du Père pour qu'il rende témoignage en sa faveur et que nous aussi, nous puissions rendre témoignage. L'Église, comme disait souvent notre pape émérite Benoît XVI, à la suite de l'un de ses maîtres, le grand théologien allemand Romano Guardini, l'Église se réveille dans les âmes. Et il commentait: l'Église naît, grandit et se réveille dans les âmes chaque fois qu'à la manière de la Vierge Marie, on accueille la parole de Dieu et on la conçoit par l'opération du Saint-Esprit. L'Église, chers frères et sœurs, c'est la vie de Dieu dans les âmes. Cette vie de Dieu qui est instaurée en nous par le Saint-Esprit, qui est donnée à tous ceux qui donnent leur foi au Christ. Sans doute, l'Église a fondé son Église en lui donnant une organisation visible comme son corps, comme nous dit saint Paul dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre. Un corps visible, formé de plusieurs membres, dans la diversité, la variété des dons et des fonctions et des ministères. En choisissant ses apôtres, en les instituant, en leur donnant le pouvoir de prêcher en son nom, de donner la grâce, la vie de Dieu à travers les sacrements qu'il leur a confiés, de conduire son peuple comme de bons pasteurs. Mais c'est à la Pentecôte, lorsque la promesse de Jésus s'est accomplie, qu'il a donné à l'Église sa plénitude d'unité, la plénitude de ses dons hiérarchiques et charismatiques, la plénitude de sa mission de témoigner de cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre et du temps, nous assurant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » comme le Créateur au matin de la création qui façonnait tel un potier l'homme à partir de la glaise du sol et lui insufflait son haleine de vie, le souffle divin, l'Esprit Saint, pour en faire une âme vivante. L'Esprit Saint à la Pentecôte, reçu par les apôtres, les onze, puisque Judas, qui avait trahi, était parti vers son lieu, mais aussi quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères, c'est-à-dire les disciples de la première heure, pas seulement les apôtres, mais l'Église dans la variété de ses membres, de ses états de vie, de ses fonctions, de ses ministères. Ils étaient 120 rassemblés au Cénacle pour accueillir le don de l'Esprit-Saint qui fondait sur eux pour constituer l'Église dans son unité visible et dans la plénitude de sa mission, instaurant cette demeure de Dieu parmi les hommes, confirmant la vie de Dieu dans les âmes. Mais vous voyez, chers frères et sœurs, cette Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, 50 jours après Pâques, comme le dit ce mot Pentecôte, où il y avait une fête importante des Juifs à Jérusalem en ce temps-là, a été précédée par une autre Pentecôte, celle que les exégètes, je crois, appellent la Pentecôte joannique, parce qu'elle est rapportée par saint Jean. C'est l'évangile que nous venons d'entendre. Lorsque Jésus, au soir de Pâques, était là, au milieu de ses disciples, cette fois les apôtres seulement, alors qu'il avait été condamné à mort, crucifié comme un malpropre, mis au tombeau, et cela faisait déjà 3 jours que cela était arrivé, les apôtres l'avaient abandonné, ils l'avaient renié, ils l'avaient trahi, ils étaient là, au Cénacle, les portes bien verrouillées, par peur des Juifs, verrouillés dans leur peur, verrouillés dans leur culpabilité, ne l'avaient-ils pas trahi ? N'avaient-ils pas trahi et renié son amitié, lui qui les avait appelés ses amis ? Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître, je vous l'ai transmis, je vous l'ai communiqué. Et voilà que Jésus vivant était au milieu d'eux. Et la première parole qu'il prononce à leur intention, des apôtres réunis au Cénacle, c'est « La paix soit avec vous ». Cette parole de Jésus vivant ressuscité qui a introduit notre assemblée de ce soir. Cette parole qui est comme la réponse du Père à la dernière prière que Jésus a lancé vers le ciel sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font !» La première parole de victoire du ressuscité, c'est une parole de pardon. C'est une parole de réconciliation. Et voilà qu'il souffle sur eux l'haleine de vie de Dieu au matin de la création. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez les péchés, ils leur seront maintenus. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs, ce que je veux dire ? La Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, celle qui est rapportée par saint Luc, qui inaugure la naissance de l'Église, qui naît d'en haut, pour être la demeure de Dieu parmi les hommes, dans l'unité de la charité et le témoignage courageux de l'Évangile, doit être absolument précédé de cette Pentecôte joannique, de cette effusion de l'Esprit-Saint sur les apôtres, qui leur donne le pouvoir de vaincre le péché par la miséricorde qui a jailli du cœur transpercé de Jésus sur la croix. Le sacrement de pénitence et de réconciliation est la source dans l'Église du pardon des péchés, de la réconciliation avec Dieu, entre nous, avec nous-mêmes, préalable obligé à cette nouvelle effusion de l'Esprit-Saint que nous voulons pour notre Église, afin qu'elle soit un signe plus fécond, plus crédible de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Et si nos épreuves, celles de l'Église, dans nos pays de vieille chrétienté, le tarissement des vocations sacerdotales et à la vie consacrée dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, dans nos établissements d'enseignement catholique, dans nos mouvements, et si la difficulté que nous éprouvons quotidiennement de transmettre la foi vivante aux jeunes générations ne venait pas précisément que cette parole de pardon que Jésus a confiée à ses apôtres et aux prêtres à la manière des apôtres dans cette première Pentecôte du Cénacle n'était pas assez prononcée au cœur de notre vie chrétienne. Et si l'absence cruelle de ce sacrement de la réconciliation dans nos communautés, comme Jésus l'a institué, dans une rencontre personnelle avec celui dont nous savons aimer de manière personnelle, tout homme au singulier à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tout homme à qui vous les maintiendrez, ils leur seront maintenus. Cette parole de réconciliation confiée à l'Église dont nous avons tant besoin et si souvent dans notre vie chrétienne, qui doit être au cœur de la vie de nos communautés paroissiales, de nos établissements d'enseignement catholique, de nos mouvements et de nos familles. Cette parole qui libère l'amitié avec le Christ. Car il n'y a pas de mission dans l'Église, chers frères et sœurs, pas de mission efficace si elle ne puise sa source dans une amitié personnelle avec Jésus. C'est vrai d'abord des prêtres, c'est vrai de tous les fidèles du Christ qui, par la grâce de leur baptême et de leur confirmation, sont appelés à être prêtres, prophètes et rois. Cette amitié que nous a révélée Jésus dans l'Évangile, comme nous l'a si bien dit tout à l'heure le père Bernard Peyrous, qui nous a été redit à bien des moments de l'histoire de l'Église, mais en particulier à Paray-le-Monial, à travers les révélations du cœur de Jésus, à Sainte Marguerite Marie. Jésus qui, comme on nous l'a dit tout à l'heure, et c'est le plus beau cela, non ? Qui ne nous a pas seulement aimés par pure bienveillance, comme on aime ses ennemis, ce qui est déjà une victoire éclatante et qui est divine, mais qui trouve le besoin de faire cas de notre amitié qui demande à Pierre sur le bord du lac de Tibériade, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?»« Tu sais bien, Seigneur, que je t'aime, alors paie mes brebis, sois le pasteur de mes agneaux, comme il le demande à sainte Marguerite Marie à la coque. Veux-tu être mon ami ?» Cher confirmant, qui allait être confirmé dans cette vie que Dieu a instaurée dans votre âme, déjà au jour de votre baptême, c'est la réponse que vous allez donner lorsque vous allez vous lever à l'appel de votre nom et que vous allez répondre « Me voici, comme les prophètes, me voici, envoie-moi » Chers frères et sœurs, tout à l'heure, quand dans un seul cœur, une seule âme, nous allons accomplir cet acte de consécration de notre Église particulière de Bayonne, Lescar et Oloron en ce jour de Pentecôte, au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, vous aussi, vous allez dire « Me voici, je veux être ton ami. » Amen.